Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment le public peut-il participer à la connaissance et à la protection de l'océan ? Avec Nadia Amezian.
Ne vous demandez pas ce que la science peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la science. Ce détournement du célèbre discours du président Kennedy résume l'ambition des sciences participatives, une démarche au potentiel de sensibilisation considérable que va nous présenter la chef de la station marine de Concarneau et professeure au Muséum national d'histoire naturelle, Nadia Amezian. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors pour commencer, les sciences participatives, elles combinent l'observation citoyenne et l'interprétation scientifique. Comment est-ce que vous faites pour respecter un protocole scientifique exigeant en impliquant des citoyens certes motivés mais néanmoins amateurs? Et deuxième question, pour commencer, quel bienfait tirez-vous de cette démarche tant pour le grand public que pour la science?
Les sciences participatives sont un des modèles des sciences citoyennes, à savoir que les sciences participatives vont vraiment impliquer les scientifiques et les citoyens, ils vont co-construire le programme de sciences participatives ensemble, depuis l'élaboration du protocole jusqu'à la valorisation des données et en passant par la mise en œuvre de ce programme. Ces programmes de sciences participatives, ils ont pour objectif, pour la majorité d'entre eux, de faire connaître la biodiversité, dans ce qui va nous intéresser, la biodiversité marine. On va avoir un questionnement scientifique qui va être basé sur des protocoles robustes. Et le citoyen va, bénévolement, avoir la satisfaction d'apporter de la connaissance scientifique de manière collaborative. Il va aussi acquérir des savoirs et il va également s'approprier des compétences. Et le scientifique, lui, ce qu'il va obtenir, c'est une multitude de données. On est là dans de la symbiose mutualiste, hein, là je parle en biologiste. Et l'autre avantage de ces sciences participatives, c'est que le citoyen va s'approprier des enjeux majeurs tels que la préservation de la biodiversité. Et il va devenir un acteur auprès de ses concitoyens. Il va promouvoir cet océan, sa fragilité, et il va également être non seulement un ambassadeur, mais il va être acteur d'une certaine transformation de la société. Alors ces sciences participatives, pour moi, elles ont un double avantage. Elles vont reconnecter le citoyen au vivant, et elles vont aussi le reconnecter à la communauté scientifique. Et je terminerai en disant que pour qu'un programme de sciences participatives fonctionne, il faut tout un ensemble d'éléments. Le premier, c'est d'avoir un protocole robuste. Le second, c'est qu'il faut que l'effort demandé aux citoyens soit adapté pour ne pas le démotiver. C'est-à-dire que si vous avez un protocole trop compliqué, vous allez perdre les gens en route. Il faut également que scientifiques et citoyens soient en accord avec les objectifs et la pertinence de ces objectifs. Et puis, il faut également que le citoyen ait confiance dans la donnée qu'il va transmettre, qu'il soit sûr que ce qu'il fait va vraiment servir. Et enfin, il faut qu'il y ait un retour très rapide et très régulier des avancées scientifiques liées à ce programme.
Donc, côté citoyen, on est d'accord qu'il n'y a rien d'autre à exiger que de la motivation. Et ensuite, c'est le protocole qui adapte ce qu'on attend de lui.
Tout à fait. Protocole qui, je le rappelle, dans le cas des sciences participatives, est co-construit avec un certain nombre de citoyens.
Bien, maintenant qu'on a fait plus ample connaissance avec les sciences participatives et qu'on comprend leur finalité, dites-nous un peu ce qu'on cherche à inventorier. Parce que dans le cas de la protection de l'océan, qu'est-ce qu'on a besoin de mieux connaître et pour avancer, donnez-nous quelques exemples de missions récentes.
Alors au niveau marin, on a besoin surtout de connaître la biodiversité. Donc on va faire un inventaire de cette biodiversité marine. Parce qu'actuellement, cette biodiversité, elle est méconnue. On estime qu'il nous manque encore 80% de découvertes à faire en termes d'espèces. On connaît aussi très très mal les interactions entre espèces au sein d'un même écosystème et on connaît encore plus mal les interactions entre les espèces et l'environnement. Un petit chiffre comme ça, l'océan occupe 70% de la surface de notre planète et on ne connaît que 5% de cet océan. Donc vous imaginez, c'est un abîme d'ignorance. Parallèlement, on a l'impact du changement global qui va agir sur les écosystèmes marins. Qu'est-ce que le changement global ? Eh bien, ça va être l'érosion de la biodiversité, ça va être les pollutions, la dynamique démographique humaine, les invasions d'espèces exotiques, la surexploitation, le dérèglement climatique. Et ce changement global va impacter ces écosystèmes qu'on connaît encore peu. Parallèlement, cet océan, il nous amène une partie de notre alimentation, il va réguler le climat, il va servir au transport. Donc vous voyez, pour l'humanité, c'est très important. D'où l'effort que doivent faire les scientifiques pour connaître cette biodiversité marine. On ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Et donc les principaux programmes de sciences participatives, il faut savoir qu'en Bretagne, on en a 7, eh bien, vont se jouer sur la frange eau de plage littorale. Et parmi ces 7 programmes de sciences participatives, nous avons Biolite, Plage Vivante, qui, eux, vont vraiment demander aux citoyens d'avoir juste les deux pieds à terre et de faire l'inventaire. Et puis, vous avez Fish Wash Forum et Objectif Plancton, qui, eux, vont nécessiter des moyens à la mer et qui vont aller inventorier la faune qui se trouve dans la colonne d'eau.
Dans un précédent épisode de ce podcast, Grégoire Loïs nous avait raconté comment est-ce que des milliers d'anonymes sortaient leurs jumelles pour répertorier les populations d'oiseaux. Là, comment se passe l'équivalent de ces démarches face à l'infini de l'océan ? Est-ce que vous avez des milliers de plongeurs qui vont voir l'évolution des bigorneaux ?
Pour l'instant, on n'a pas des milliers de plongeurs qui vont voir l'évolution des bigorneaux, mais nous avons quand même, je pense, au programme Biolite, qui a, en 4 ans, compte plus de 14 000 participations et a permis l'inventaire de 43 estrants. Donc c'est la partie où les fleuves vont se jeter à la mer et donc vous avez un mélange des deux eaux, facilement accessible à pied. Donc vous n'avez pas besoin de jumelles, juste peut-être d'un filet de temps en temps et puis d'un smartphone ou de documents avec des protocoles qui vont vous permettre d'identifier les espèces que vous allez trouver le long de votre chemin.
Quand on avait préparé cet épisode, vous m'avez mentionné une expérimentation à l'œuvre, mais en disant qu'elle était citoyenne et non participative. Pour éclairer les auditeurs et les auditrices de ce podcast, quelle est la différence entre les deux ?
Alors, je le disais au début, c'est que les sciences participatives, vous allez vraiment avoir une co-construction entre le scientifique et le citoyen. Et dans les citoyennes non participatives, vous allez avoir différents degrés, mais vous allez par exemple avoir des programmes comme Capoeira qui vont inventorier les capsules de raies et vont transmettre la donnée directement aux scientifiques. Il ne va pas y avoir plus d'interaction entre le scientifique et le citoyen. Le scientifique, par contre, va pouvoir faire un suivi des raies le long de nos côtes. Donc, en fait, la différence, ça va être le degré d'investissement du citoyen dans la construction du projet, dans l'acquisition de la donnée et dans la valorisation. À terme, c'est d'arriver à faire des citoyens qui soient capables de monter leur propre protocole, juste guidés par des scientifiques. C'est ce qu'on appelle les sciences collaboratives.
Peut-être pour terminer cet épisode, je voudrais que vous nous parliez d'un programme qui a lieu en cours actuellement et qui est particulièrement stimulant pour les scientifiques dans la mesure où il ne concerne pas une seule espèce, mais tout un écosystème.
Effectivement, je suis très attachée au programme Plage Vivante qui va intéresser tout un écosystème des hautes plages. En fait, c'est un observatoire participatif de la biodiversité des hautes plages qui est mis en œuvre et qui va se décliner en plusieurs protocoles. Le premier protocole qui maintenant a démarré en 2017 s'appelle « À la mer » et a pour objectif de faire l'inventaire de toutes les algues échouées sur le haut de plage. Alors, il ne faut pas confondre les algues échouées et les marées vertes. Hein. Il y a vraiment une grande différence. Et ces algues échouées vont entretenir tout un écosystème. De par leur décomposition, elles vont libérer des nutriments qui vont permettre à des plantes et des fleurs de s'installer et ces plantes vont éviter l'érosion des dunes ou de notre côte. Vous avez ensuite un autre protocole qui est en cours d'élaboration qui s'appelle « Au la mer » et lui s'intéresse aux oiseaux qui vont venir s'alimenter des petits invertébrés qui sont présents dans cette laisse de mer. Et vous voyez là, on a vraiment un écosystème dans son entier qui est exploré par des citoyens. Et je pense que c'est un des rares cas en milieu marin où on peut trouver ça. Et symboliquement, c'est un écosystème qui a un rôle majeur en termes écologiques. C'est aussi un écosystème qui a des enjeux importants en termes patrimoniaux, en termes de fonctionnalité et puis en termes socio-économiques. Hein. Vous allez avoir les pêcheurs à pied, vous allez avoir les touristes. Donc, c'est un endroit où on va avoir des confrontations. Et le fait que ces citoyens prennent part à ce suivi de cette biodiversité, ça va les sensibiliser à cet écosystème, à son rôle, à sa fragilité. Et ils vont être porteurs auprès des acteurs, par exemple, socio-économiques. Je pense notamment à certains élus qui vont être sensibilisés par ces actions. Et on voit maintenant dans certaines communes bretonnes le fait que le retrait de cette laisse de mer ne se fait plus et surtout ne se fait plus de façon mécanique. Donc, le citoyen, là, il a vraiment un rôle majeur dans cette transformation de la société vers la transition écologique et surtout vers des changements de valeurs.
Donc, n'hésitez pas, vous toutes et tous qui nous écoutez, à vous renseigner pour, vous aussi, faire avancer la science par les sciences participatives.
Pour tous ceux qui sont intéressés, il y a un site en ligne qui s'appelle Plage Vivante, sur lequel vous trouverez tous les protocoles. Vous trouverez également les dates de formation qui sont gratuites et vous trouverez aussi des correspondants qui sont très motivés, très sympathiques et qui pourront, je suis sûre, faire de vous des passionnés de la laisse de mer et de futurs scientifiques.
Et bien, j'en suis certain, moi aussi, rejoignez Plage Vivante. Merci beaucoup Nadia.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Nadia Améziane, chef de la station de biologie marine de Concarneau et professeure au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.